Bonsoir. Des trombes d'eau en plein cœur du mois de juillet, 42 morts en Allemagne de l'Ouest, 6 en Belgique côté Wallonie, des dizaines et des dizaines de disparus, les pires inondations en Europe depuis 20 ans, l'armée en renfort et le centre-ville de Liège en bord de Meuse, évacués ce soir, nous sommes sur place. Situation moins catastrophique, mais vigilance dans l'est de la France, avec 10 départements toujours en alerte orange. Emmanuel Macron fait son tour de France, un verre de vin blanc, un béret basque, ses cadeaux, la montée du Tourmalet en voiture et un salut au personnel du Vaxibus. 96% des personnes malades et symptomatiques la semaine dernière n'étaient pas vaccinées, dit Olivier Véran. Mais pourquoi alors faut-il craindre une explosion des cas à l'hôpital? Réponse dans ce journal. Et puis le pass sanitaire. Comment passer l'été sans poireauter derrière les portiques? Air France à la technique, vous l'entendrez. Un été en liberté conditionnelle, Fabienne. C'est le sujet du ce soir du Téléphone Sonne.
Et oui, c'est comme ça qu'on l'a intitulé, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop si le variant Delta va nous pourrir les vacances, si la poussée vers la vaccination nous sauve. Liberté conditionnelle aussi, parce qu'on parle beaucoup de ce mot liberté en ce moment, parce qu'on se regarde, nous aussi, constater qu'il a fallu un coup de pression et même des menaces d'interdit pour réveiller ceux qui ne voyaient pas l'urgence d'un vaccin. On parle de tout cela ensemble avec le sociologue Jean Viard, avec lequel vous aimez dialoguer, ça tombe bien, lui aussi, et ça se passe au 01 45 24 7000.
Nous irons aussi à Cannes bientôt, la fin avec Memoria du Thaïlandais Vera Setakul, et puis retour bien sûr sur le Tour de France entre exploits et perquisitions.
France Inter.
Les rues sont des rivières, les rivières sont des torrents. L'ouest de l'Allemagne, le déluge et la désolation. Des habitants réfugiés sur des toits, engloutis par les eaux. Des maisons, des voitures emportées, des arbres arrachés. 42 morts, des dizaines de disparus. En Rhénanie du Nord-Westphalie, la région la plus peuplée du pays, dans l'état voisin, en Rhénanie-Palatinat, au sud de Bonn. L'armée en renfort et déjà des tentatives de pillage près d'Aix-la-Chapelle. Angela Merkel, la chancelière, a pris la parole depuis Washington, où elle est en visite officielle.
Je suis bouleversée par les informations qui me parviennent sur les sites inondés où les gens dans la plus grande détresse montent sur leur toit pour être sauvés. Je suis en deuil de tous ceux qui ont perdu leur vie dans cette catastrophe. On ne sait pas encore combien ils sont, mais ils seront nombreux. Et il y a tant de personnes pour lesquelles nous devons encore trembler. Vous pouvez avoir la certitude que toutes les forces de ce pays, l'État fédéral, les Länder, les communes vont tout faire dans les conditions les plus difficiles pour sauver encore des vies, maîtriser les dangers, adoucir les malheurs. Et j'ai parlé avec le ministre des Finances pour voir dans quelle mesure l'État fédéral pourra aider à la reconstruction.
La chancelière allemande Angela Merkel, des pluies torrentielles au cœur de l'été, les pays voisins ne sont pas épargnés, le Luxembourg, mais surtout la Belgique, au moins 6 morts en Wallonie selon la RTBF, la station balnéaire de Spa complètement sous l'eau, 1800 personnes évacuées de Chaudfontaine, couvre-feu à 21h imposé à Verviers, mais c'est la ville de Liège qui concentre ce soir toutes les inquiétudes, le niveau de la Meuse ne cesse de monter, les habitants qui vivent au bord du fleuve appelés à évacuer.
Évacuez le centre-ville dès que possible. Montez au premier étage et emportez avec vous denrées alimentaires, GSM et de l'eau.
Bonsoir Angélique Bouin, vous êtes notre envoyée spéciale aux portes de Liège. On l'entend, ses habitants invités à évacuer. Ils fuient la ville ce soir pour certains.
Oui, c'est la Meuse qui menace à tout moment de quitter son lit. Les autorités redoutent une montée de l'eau de 1,50 m, d'où cette évacuation du centre-ville toujours en cours. La police bloque par ailleurs tous les accès dans l'autre sens et invite les habitants à rester chez eux. Ici où je me trouve, sur les hauteurs de cette cité de 200 000 habitants, ce sont les pluies diluviennes qui durent depuis deux jours sans discontinuer, qui ont provoqué en amont la montée des cours d'eau. La journée ici a aussi été éprouvante en raison de crainte de voir le pont-barrage de Mont-Saint céder. Ce soir, il n'y a plus d'inquiétude, disent les autorités. Mais ce barrage, parce qu'il est en travaux, ne joue pas correctement son rôle de retenue de l'eau, explique l'un de ses responsables. Nous avions misé sur la période estivale pour les programmer, sans imaginer évidemment un tel déluge. Liège, donc menacé par cette montée des eaux. Mais ailleurs dans la région, vous avez dit, il y a des communes bordant les rivières déjà inondées avec des opérations de secours très compliquées et des drames humains. Les bateaux de sauvetage emportés par le courant et des hélicoptères qui, avec le vent, ne peuvent pas élitroyer les habitants réfugiés sur le toit de leur maison.
Angélique Bouin aux portes de Liège, en partie évacuée ce soir pour France Inter. Militaires, hélicoptères, mobilisation générale en Allemagne comme en Belgique. La France envoie des renforts, sauveteurs de la sécurité civile et un équipage de recherche aquatique. La Meuse, la Moselle, le Rhin, les pluies, les crues ne s'arrêtent pas à la frontière évidemment. Situation moins dramatique dans l'est de la France, mais de nombreux habitants, les pieds dans l'eau, à Longuyon, en Meurthe-et-Moselle, ils ont dû se réfugier dans les étages. Témoignage.
C'est assez impressionnant la vitesse où ça a monté. On s'est couché tranquillement vers 23h, sans souci d'eau à part la pluie. On a été réveillé à 3h30 par les pompiers, les voisins qui nous demandaient de déplacer les voitures parce que l'eau était déjà à moitié de la route. Par contre, il y en a qui n'ont pas eu le temps. Vous avez vu qu'il y a des camionnettes complètement prises par l'eau qui montaient très vite apparemment. Hein.
Les trois quarts noyés, j'ai mis de là. Moi. Les trois quarts sont noyés, le congélateur est mort, toute la viande dedans, les outils, tout est dedans. Motoculteur, tout mon outillage. Oh ben, le congélateur, il s'est levé, il a monté, il a tapé dans le plancher. Ben voilà. Moi, j'ai pas dormi la nuit, moi.
Réaction recueillie par Magali Fichter de France Bleu Lorraine et la pluie toujours là, alors que les niveaux des rivières et des fleuves sont déjà hauts. 10 départements de l'Est de la France, donc en alerte orange ce soir. Le point météo complet à la fin de ce journal.
Retour sur le terrain pour Emmanuel Macron.
Un petit village de montagne, Sainte-Marie de Campan dans les Hautes-Pyrénées. Discussion avec des habitants, un petit verre de vin au passage. Et puis le Tourmalet dans la voiture du directeur du Tour de France. Remise du trophée à Pogacar, encore premier à l'arrivée à Louzardiden. Enfin, opération communication. Bonsoir Jérôme Cadet.
Bonsoir Hélène, bonsoir à tous.
Trois jours après son discours sur le pass sanitaire élargi, voici le président de la République dans le Vaxibus du Tour de France.
Oui, le président à la rencontre des sapeurs-pompiers du département des Hautes-Pyrénées qui ont procédé aujourd'hui à la vaccination.
Allez, je vous suis. Bonjour, vous allez bien ?
Bonjour.
Le Vaxibus suit le tour depuis 3 semaines. 50 injections en moyenne par jour jusqu'à dimanche et une forte augmentation depuis l'allocution présidentielle de lundi soir. Illustration, selon Emmanuel Macron, de la logique du « aller vers les Français ».
Je pense qu'il y a une prise de conscience pour nos concitoyens qui hésitaient. Et c'est important, c'est une bonne chose. Depuis lundi, au total, quand on prend les rendez-vous qui sont pris sur le terrain et sur Doctolib, on a près de 3 millions de nos concitoyens qui ont pris rendez-vous. Et on voit avec des initiatives comme ça que le aller vers est aussi très efficace. Moi, je veux féliciter nos sapeurs-pompiers parce que là, on a un exemple formidable. Ils ont fait 100 vaccinations aujourd'hui. On a des pompiers qui expliquent comment ça se passe, les retours qu'ils ont. Et ça permet de convaincre encore et encore et donc d'améliorer notre situation collective.
Convaincre les Français de se faire vacciner, y compris grâce au Tour de France. Pour le port du masque, en revanche, il y a du travail au passage du président cet après-midi. Et malgré les arrêtés préfectoraux, très peu de spectateurs portaient leur masque. Il était pourtant obligatoire sur la route du Tour.
Jérôme Cadet pour France Inter. Emmanuel Macron, lui, poursuit son tour. Demain à Bagnères-de-Bigorre, dans une usine, puis à Lourdes, pour parler tourisme avec les élus. On reviendra, nous, bien sûr, sur la 18e étape de ce Tour de France avec notre reporter Fanny Lechevestrier à la fin du journal. Près de 9000 cas par jour, les contaminations grimpent, mais en revanche, le nombre d'hospitalisations, elles, stagnent, voire, comme ce soir, continue de baisser. Pour autant, il ne faut pas croire qu'on ne risque plus la saturation des hôpitaux. Il y a toujours un décalage. L'Institut Pasteur affirme d'ailleurs qu'on pourrait atteindre très vite le pic de novembre dernier. D'accord, mais comment l'expliquer alors qu'il va bientôt y avoir 50% de Français totalement vaccinés ? Réponse avec l'épidémiologiste Antoine Flao.
Il faut se rappeler qu'une vague épidémique, c'est à peu près 5% de la population qui est infectée. On peut se dire aujourd'hui, en tout cas en France, très clairement, qu'il reste au moins ces 5% pour faire une vague de la même ampleur, au minimum, que celle qu'on a vue jusqu'à présent, et y compris de saturer les hôpitaux à nouveau. Donc ce risque de saturation est vraiment réel tant que plus de 90% et peut-être 95% de la population ne sera pas vaccinée. On le sait pour la rougeole. Je vais vous donner une petite anecdote. Dans les années 90, la France et l'Allemagne étaient les deux premiers exportateurs aux États-Unis de cas de rougeole. Ça agaçait les États-Unis qui, eux, avaient quasiment éliminé la rougeole. La différence, c'est que la France avait 85 ou 86% de vaccinés contre la rougeole, comme l'Allemagne, et que les États-Unis en avaient 98%. En fait, il y a un effet seuil. Tant qu'on est au-dessous de ce seuil, malheureusement, on a des risques importants de continuer à être embêté comme ça.
L'épidémiologiste Antoine Flao, invité de Marion Lourd dans le 13-14 de France Inter. Le ministre de la Santé en visite visite quant à lui dans un centre à Chambéry cet après-midi, assure que 96% des personnes contaminées avec symptômes la semaine dernière n'étaient pas vaccinées. Lorsque vous êtes vacciné, vous avez 4 fois moins de risques d'attraper le Covid, dit Olivier Véran. Quant au grand sursaut des Français pour la vaccination, plus de 3 millions de rendez-vous, disait le chef de l'État, pris depuis lundi soir. Et bien voici l'embouteillage prévisible qui va avec. Pour obtenir un pass sanitaire, certains, on le sait déjà, devront attendre le mois de septembre. À propos de pass sanitaire, comment le contrôler dans les transports à partir de début août? Les discussions sont toujours en cours à la SNCF. Ça pourrait se faire au portique ou même à bord des trains. Possibilité encore de lier le pass sanitaire au billet. Ça, c'est quelque chose que la compagnie aérienne Air France a déjà mis en place. Comment ça marche? Explication avec Guy Zaclade, directeur du Hub Air France Roissy-Charles de Gaulle.
Alors, sur les vols sur lesquels le dispositif est applicable, 3 jours avant le voyage, le client recevra un mail lui proposant, c'est pas une obligation, de nous transmettre les documents sanitaires nécessaires à son voyage. Si ces documents sont conformes, nous lui renvoyons un message en lui disant qu'il est « ready to fly » et nous apposons sur sa carte d'embarquement un logo « ready to fly ». En voyant ce logo à l'aéroport, que ce soit à l'enregistrement ou à l'embarquement, nous saurons que les formalités sanitaires ont déjà été vérifiées et vous pourrez voyager directement et accéder directement à l'avion. Ensuite, nous supprimons l'ensemble des documents que vous nous avez transmis et nous ne gardons aucune copie de vos documents parce que ce sont des documents personnels qui vous appartiennent. Et si vous ne voulez pas utiliser ce service, comme aujourd'hui, c'est à l'aéroport, au moment de l'embarquement, que nous contrôlerons les documents sanitaires.
Guy Zaclade d'Air France avec Maxime Debs. Les contraintes se resserrent pour tous les passagers en provenance d'Espagne ou du Portugal, des pays où le variant Delta galope. Un test désormais de moins de 24 heures sera demandé aux frontières françaises pour tous ceux qui ne sont pas vaccinés. Ça commence dès ce week-end. Après 1 an et demi de pandémie, l'heure des premiers bilans avec parfois certaines conséquences désastreuses. L'ampleur des dégâts, comme ici en Italie, où les écoles sont restées fermées de très longs mois et où les cours à distance n'ont visiblement pas compensé. C'est un rapport officiel inquiétant. Le niveau général des élèves italiens a plongé. Et comme toujours, au sud plus qu'au nord. À Rome, les précisions de Bruce de Galzin.
L'Italie avait déjà de gros problèmes avec l'école avant la pandémie, reconnaît le ministre de l'Éducation. Mais ces problèmes sont accentués depuis. Si au primaire, la situation est satisfaisante, c'est parce que l'école est la plupart du temps restée ouverte, au moins à mi-temps. En revanche, dès le collège, cela se dégrade. Et ce sont les élèves des classes sociales les plus pauvres qui sont en première ligne, dans le sud avant tout. Mais ce que certains qualifient de désastre concerne surtout le lycée. En italien, 44% des élèves n'ont pas le niveau. Cela monte à 60% dans le sud. Et en mathématiques, c'est plus de la moitié, 51%, 10 points de plus qu'avant la pandémie, et même 70% dans le sud. L'école à distance doit donc être évitée désormais. C'est ce que souhaite le ministre de l'Éducation. Mais la responsabilité est politique, estime la présidente de l'Institut qui a réalisé cette étude et qui dépend du ministère. Elle donne l'exemple de la Campanie, la région de Naples et des Pouilles qui ont fermé leurs établissements très longtemps. L'école a été dépréciée, selon elle, à peine considérée. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
9 jours après son agression, le célèbre présentateur de télé néerlandais Peter R. de Vries vient de succomber à ses blessures. L'attaque en plein jour et en plein centre-ville d'Amsterdam de ce journaliste spécialisé dans les affaires criminelles avait ému le pays tout entier. Visé par des tirs, une balle dans la tête, Peter R. de Vries était depuis à l'hôpital entre la vie et la mort. 2 suspects sont toujours en détention provisoire. L'Union européenne instaure une ligne rouge. La Commission lance des procédures d'infraction contre la Hongrie et la Pologne pour ces mesures jugées discriminatoires envers la communauté LGBT, la procédure d'infraction première étape avant la Cour de justice européenne et les sanctions financières. En bref encore, l'impasse politique plus que jamais au Liban. Le Premier ministre désigné, Saad Hariri, jette l'éponge. Impossible de se mettre d'accord avec le président. 9 mois après avoir été renommé, Saad Hariri renonce donc à former un gouvernement alors que le pays traverse la pire crise socio-économique de son histoire.
Ça sent la fin sur la croisette.
Dernière séance, demain, aujourd'hui, à l'affiche et en compétition, un réalisateur que Cannes connaît par cœur. Le Thaïlandais Vera Setakul, déjà palmé en 2010 pour Oncle Bunmi. Cette fois, il revient avec Memoria et toujours Alexis de Meyer, cette passion pour les fantômes du passé.
Une Écossaise spécialisée dans la culture des orchidées est de passage à Bogota pour rendre visite à sa sœur hospitalisée. L'horticultrice, interprétée par Tilda Swinton, débute alors une longue errance en Colombie à la recherche d'un remède à sa mélancolie. La nuit, un bruit oppressant l'empêche de dormir et l'obsède au point de demander à Hernan, un musicien électro, de tenter de le reproduire avec ses machines.
It's like a rumble from the core of the earth.
Plus lente, plus contemplative que jamais, cette nouvelle proposition d'Apichat Ponguera Setakul est particulièrement exigeante. Memoria est une longue hallucination tropicale avec une Tilda Swinton fantomatique. La photographie est somptueuse, le travail du son impressionnant. Memoria est une œuvre où le silence est d'or, comme la palme obtenue il y a 11 ans par ce cinéaste décidément déroutant.
Alexis de Meyer au Festival de Cannes pour France Inter. Chez eux aussi, ça tourne, ça mouline, ça pédale, les coureurs du Tour de France. Dix-huitième étape, l'ultime combat dans la montagne. 184 km entre Pau et Luz-Ardiden, un géant sur le chemin, le col du Tourmalet et un rouleau compresseur à l'arrivée. Bonsoir Fanny Lechevestrier.
Bonsoir Hélène.
Vous suivez ce tour depuis le début pour nous, alors on retiendra, on en a parlé, cette visite d'Emmanuel Macron, mais aussi et surtout cette nouvelle victoire d'un maillot jaune qui décidément pulvérise ce Tour de France, le Slovène Pogacar.
Oui, que dire, hein, si ce n'est qu'il y a lui, le gamin de 22 ans et les autres, qui l'attaquent quand il veut avec le sourire et sans jamais le moindre signe de souffrance pour signer, sans surprise j'ai envie de dire, ce soir son troisième succès sur ce tour.
Je me sentais bien et je suis vraiment super heureux avec cette victoire, c'est fou. C'est un jeu pour moi depuis que j'ai commencé le vélo, j'adore y jouer donc je suis hyper heureux. Il reste 3 jours de course mais oui, cela semble bon.
Difficile de le contredire, hein, avec 5 minutes 45 secondes d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard, deuxième, on ne voit pas hein, qui pourra lui contester un deuxième sacre à Paris dimanche. Pas les Français en tout cas, Hélène, qui auront tout tenté encore aujourd'hui pour décrocher une victoire d'étape de prestige. Et ils nous ont fait vibrer, hein, il faut le noter quand même, Julien Lafilippe, David Gaudu, courageux et qui a fait plaisir à voir, mais aussi Pierre Latour.
C'est un des grands cols du Tour et du coup c'est quand même vraiment agréable de passer ce col en tête. Avec tout le monde qu'il y a et tout, et puis je sais pas, ça fait du bien. Ça t'aide à te dépasser un peu et à pousser un peu plus. Et ouais, tu te dis, je suis sur le tour en tête dans un col hors catégorie, donc tu t'arraches. Quoi.
S'amuser, c'est ce qui ressortait côté tricolore et c'est finalement déjà pas si mal, voire le principal, Hélène, dans le contexte actuel.
Alors il y a eu aujourd'hui un peu comme une salombre au tableau, perquisition la nuit dernière dans l'hôtel de l'équipe Bahreïn avec des coureurs aux performances suspectes. Une enquête préliminaire ouverte, on va se dire les choses, hein, soupçon de dopage, rien ne filtre pour l'instant. Mais Fanny, qu'en disent les coureurs que vous avez rencontrés ?
Alors une partie du peloton déclare que c'est bien qu'il y ait à nouveau des contrôles, une surveillance pour qu'il n'y ait, je cite, pas trop de triche, pour reprendre les mots d'Ivo Madio, le directeur sportif de la Groupama FDJ. D'autres sont bien sûr contents, satisfaits de pouvoir traquer les coupables, mais regrettent, à l'image de Kenny Ellison, que cela jette une fois de plus le discrédit sur ce peloton.
Il faut chercher, il n'y a aucun problème, mais on en souffre tous, on en pâtit tous. Moi le premier, par exemple, je vais revenir, belle famille qui connaît rien, ils vont me dire, oh, c'est quoi encore cette histoire de 50 policiers dans un hôtel, alors que les coureurs se battent pour que sortir de cette image. Nous, pendant tout ce temps-là, on passe encore pour des gens qui ont des trucs dans des valises et machin.
On peut comprendre hein, l'agacement de Kenny Ellison, mais nous aussi, on aurait vraiment aimé vous parler d'autres choses, comme par exemple, Hélène, de la belle histoire hier dans la descente du col du Portet, où le Belge Philippe Gilbert et le Britannique Chris Froome ont secouru un cyclotouriste tombé 20 mètres plus bas après avoir raté un virage. Mais voilà, il y a aussi l'actualité.
Et la solidarité donc. Merci Fanny Lechevestrier sur le Tour de France pour France Inter. Enfin, pas de limite d'âge pour toucher les étoiles. Pour son voyage dans l'espace le 20 juillet, Jeff Bezos, le milliardaire, emmène avec lui l'astronaute la plus âgée de l'histoire, 82 ans, ça on savait. Mais voilà qu'on apprend qu'il aura aussi à ses côtés le plus jeune, 18 ans, un certain Olivier Daymen, fraîchement moulu du lycée. Ce n'est pas le vainqueur des enchères qui, pour un siège à bord, a déboursé 28 millions de dollars, mais quand même, il a payé sa place. L'histoire ne dit pas combien, en tout cas, c'est bien le début du tourisme spatial. Sky is the limit, enfin pour une grosse poignée de dollars quand même.
Voilà, et de toute façon sans moi. Hein.
Sans moi aussi, moi, pas
je
du tout envie.
Dans un train dans le sens inverse du sens de la marche, donc imaginez
les pieds
un
sur
peu,
terre, c'est
oh
bien.
Là là.